qu'attendons-nous de la vie du couple du prince charmant et de la belle bergère ? Tout ou presque tout, on attend que l'autre soit l'antidote privilégié aux difficultés de notre vie. Souvent, nous surinvestissons notre relation sur la base de nos rêves et de nos espoirs. Or, l'attente, quelle qu'elle soit, porte en elle les germes de la déception. C'est ce que vous écrivez, Christophe Fauré, dans votre livre intitulé « Ensemble, mais seul », paru chez Albin Michel. Alors, pourquoi la plupart d'entre nous avons une telle attente démesurée, j'allais dire peut-être plus spécialement les femmes ?
Peut-être. Nous sommes très conditionnés par notre société à voir à ce que la relation de couple puisse répondre à tous, presque tous nos besoins. Et sans même le savoir, on va, avant même qu'on commence la relation, projeter sur cette relation naissante des attentes qu'elle n'est pas en mesure de satisfaire. Par exemple, je vais avoir désormais la sécurité émotionnelle que je n'ai jamais eue. Peut-être que j'ai eu une vie jusqu'à maintenant où j'étais tout le temps insécure par rapport au monde. Et j'espère que, c'est pas forcément formulé consciemment, mais j'espère que en étant en lien, me mettant en lien avec toi, je vais pouvoir à nouveau maintenant changer complètement, avoir confiance en moi, avoir l'estime de moi. Le couple peut, ça ne veut pas dire que l'amour n'a pas cet énorme pouvoir de pouvoir donner confiance à l'autre, mais répondre totalement à la sécurité fondamentale de l'autre, ce n'est pas possible. On vient aussi comme attente, c'est le couple va réparer des carences du passé ou des blessures de mon passé. Et on espère, par exemple, que mon compagnon, si je suis une femme, mon compagnon va me donner l'amour, l'attention, le regard que mon père ne m'a pas donné. C'est peut-être vrai, et là c'est super, il n'y a pas de problème, mais parfois on est dans l'attente que le compagnon apporte ce que le père n'a jamais donné, alors que ce compagnon est incapable d'apporter ce regard de reconnaissance, de valorisation qu'on attendait. Parce que ce qu'on attendait de son père, c'était être validé en tant que femme, en tant que fille, en tant que membre de la fratrie, avec une place bien spécifique, bien des attentes très spécifiques. Or, on transfère ces attentes sur le compagnon, et le compagnon, il n'est pas là pour nous faire exister en tant que fille. Il est là pour nous faire exister en tant que femme, en tant qu'amante, en tant que mère, en tant que professionnelle, en tant que compagne de vie. Et parfois, il y a, sans qu'on s'en compte, une frustration de voir ce que l'autre n'est pas en mesure, en plus c'est pas ça qu'on lui demande, mais au bout du compte c'est ça quand même qu'on lui demande, mais n'est pas en mesure de répondre à ces attentes-là, et on lui en fait le reproche et on dit c'est de ta faute. Or, quand on est déçu par quelqu'un, on se rend pas compte que on dit l'autre me déçoit, tu est décevant, mais au bout des comptes, cette déception, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Bénédicte, repose sur le fait que on a, moi, j'ai des attentes vis-à-vis de toi. Et comme tu réponds pas à mes attentes, je te trouve décevant et je t'attaque. Or, mes attentes m'appartiennent.
Elle parle de moi et pas de toi, en fait.
Exactement. Mes attentes m'appartiennent. Et si j'ai des attentes qui sont très appropriées, très en phase avec ce que la relation peut donner, il est normal que j'ai ces attentes de partager la charge mentale de la famille, partager la logistique, etc., etc. Enfin, toutes ces choses qui font qu'un couple fonctionne bien. Mais si je me rends compte que j'ai des attentes à côté de la plaque, entre guillemets, qui sont erronées, à savoir de me restaurer dans des carences du passé, de me restaurer dans un sentiment d'abandon ou de pas de valeur, etc. La relation d'amour peut, d'une certaine mesure, combler ça, bien sûr, hein, ça a ce pouvoir-là, mais parfois ça n'y arrive pas et on a l'impression que son couple ne marche pas parce qu'on n'est pas réparé à ce niveau-là. Eh bien là, non, c'est pas le lieu du couple de réparer quelqu'un qui est en carence ou en blessure issue du passé. C'est très souvent un travail personnel, un travail éventuellement en psychothérapie qui permet de ne pas alourdir la relation de couple de problématiques, d'attentes, de carences qui ne peuvent pas être répondues dans le couple, mais qui peuvent être uniquement prises en compte et qui pourraient trouver réponse dans un travail plus individuel. Et là, on se rend compte parfois que le fait de faire une psychothérapie pour identifier que ce que je demande à mon compagnon ou à ma compagne n'est pas de l'ordre du raisonnable parce que je lui demande quelque chose que mon père ou ma mère devait donner, eh bien, on libère. on allège la relation du présent, du poids du passé, et on peut être pour la première fois voir le compagnon ou la compagne pour ce qu'il est, pour ce qu'il peut donner, et que c'est pour ça qu'on l'a choisi initialement. Mais aussi, il est aussi fort possible qu'on ait choisi ce compagnon ou cette compagne de façon très inconsciente pour, afin d'eux, qu'il compense ses carences du passé. Et là, on met un biais dans la relation, un biais dans ce qu'on va attendre de la relation, qui peut, à court ou moyen terme, s'exprimer, se manifester par une dissonance dans l'harmonie du couple. Parce qu'on demande quelque chose, comme si on demandait au boucher de nous donner du pain.
Oui, mais en même temps, si on a cette attente, c'est peut-être qu'au moment de l'amour-passion, on a eu l'impression que cette personne allait pouvoir nous combler.
Exactement, amour-passion, Bénédicte. On sait bien que l'amour est aveugle et qu'avec les années, il met des lunettes. Et qu'au bout du compte, cet amour-passion, c'est super l'amour-passion. Hein. On a l'impression d'avoir des ailes, c'est incroyable. On sait bien que ça ne dure pas longtemps, hein, que ça dure, traditionnellement, on dit que ça dure 2-3 ans. Bon. Mais l'amour-passion, il faut comprendre ce que c'est. L'amour-passion, c'est une projection massive de ce qu'on attend de la relation sur l'autre. C'est-à-dire qu'on met, sans s'en rendre compte, entre soi et l'autre, un écran de fumée qui parle d'abord de ce qu'on attend de la relation. Et qu'une fois que cet écran de fumée, sous le coup du quotidien, sous le coup de la vie qui passe, s'estompe un petit peu comme de la brume au petit matin, eh bien on commence à voir l'autre tel qu'il est ou tel qu'elle est. Et là on se dit, ah, il y a erreur de casting justement, parce que c'est pas ça que j'avais vu au début. Non, ce qu'on avait vu au début, c'était le nuage massif qu'on a projeté de soi sur l'autre, en pensant que l'autre était la réponse à ses attentes, ce qu'on a projeté sur lui. Et au bout du compte, quand ça s'estompe, l'autre devient l'autre.
Oui, mais en même temps, on sait que même physiologiquement, il y a un shoot de neurotransmetteurs,
ouais, fou,
comme
hein.
L'ocytocine, la dopamine, etc., qui nous met aussi dans cet état un peu d'exaltation.
Exactement. Et ça, je trouve que la nature nous joue un sale tour, parce que au bout du compte, la nature est... Alors, c'est un petit peu biologique, hein, pardonnez-moi, c'est un peu brut de pomme, hein, ce que je vais vous raconter, mais c'est vrai que la nature, elle a pour objectif premier d'assurer la pérennité de l'espèce. Et donc, elle a sûrement créé en nous des mécanismes biologiques de telle intensité émotionnelle qu'il y a accouplement pour pérennité de l'espèce. Et je crois que Dame Nature, elle est sympa pour ça, mais qu'elle n'est pas très sympa pour la pérennité du sentiment amoureux. Et qu'une fois qu'il y a eu accouplement et enfant, eh bien, les mécanismes biologiques, neurotransmetteurs, ocytocines et autres qui sont fabriqués par notre cerveau ont tendance à s'émousser. Et c'est là, à mon sens, que l'être humain, dans toute sa grandeur, peut prendre le relais de ce que le mouvement naturel donnait en lui. C'est ce que j'appelle le travail de deuil. C'est-à-dire, non plus une décision qui est où on est porté par sa biologie et par la magie, et qu'il faut vivre, hein, vraiment. L'extrême magie du sentiment amoureux qui peut déplacer des montagnes, mais à un moment donné, quand on n'arrive plus qu'à déplacer des collines, on se dit, là, qu'est-ce que je fais maintenant que j'ai perdu la passion?
Et la patience,
ça doit être le même mot sûrement, la passion et la patience, et de se dire, oui, c'est passion supportée, hein, c'est pathéo, c'est supporter, passion du Christ, passion de la patience, c'est supporter les épreuves, c'est véritablement se dire, ok, qu'est-ce que je choisis? Et c'est vraiment tout l'enjeu du travail d'amour de, est-ce que cette personne, je ne peux plus choisir cette personne, choisir cette personne au regard de ce qu'on a vécu, ou est-ce que je peux, au-delà de cet amour-passion qui a disparu, au-delà de tous ces petits papillons dans le ventre et de cette exaltation qui était la nôtre au début, qu'est-ce que je peux décider de rechoisir du lien avec elle? Et c'est peut-être là que l'amour commence.
L'amour commence quand on choisit d'aimer.
Quand on choisit d'aimer en connaissance de cause et qu'on est beaucoup moins aveuglé par le mouvement passionnel. C'est pas antinomique, hein. On peut rester, je connais des couples qui restent dans un mouvement passionné, viscéral, à leur compagnon ou à leur compagne, et qui sont en même temps dans un travail d'amour qui se comprend d'un regard lucide sur ce qu'est l'autre. Les ombres de lumière, les ombres d'obscurité, mais en dépit de ça, on va choisir. Et le top du top, c'est quand la passion amoureuse continue à exister en dépit ou parallèlement à cela.
Ce sentiment amoureux qui s'émousse, vous dites qu'après un certain temps, il faut re-choisir. Mais quelquefois, on a l'impression que comme effectivement, on est encore dans ces demandes disproportionnées vis-à-vis de l'autre,
oui.
On ne peut pas faire ce pas. J'allais dire, on peut choisir l'autre tel qu'il est qu'à partir du moment où on a fait ce travail intérieur, je pense.
Oui, exactement. C'est très difficile quand on répète un schéma qu'on a appris peut-être depuis l'enfance. Hein. Un schéma, quand je dirais appris depuis l'enfance, c'est une petite fille qui est dans la quête constante, un regard d'approbation de son papa. Elle a peut-être commencé à apprendre ça à 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc c'est vraiment difficile. Puis elle pérennise à 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est difficile d'identifier soi-même un comportement que l'on juge normal, puisque c'est celui qu'on a eu depuis toujours. J'aime pas dire qu'il faut aller voir des psys, parce que ça veut dire qu'il faut tout le temps tout psychologiser. C'est pas vrai, mais parfois même c'est des amis intimes qui disent, écoute, est-ce que je peux te parler? Je vois que dans tes relations ou dans ton couple, il y a des schémas. En fait, il y a des schémas récurrents. Schéma, c'est quoi? C'est des comportements presque stéréotypés qu'on répète encore et encore et encore. Et parfois, seul, on voit pas qu'on répète des schémas encore et encore et encore. Des schémas de critique, des schémas de dévalorisation du compagnon ou de la compagne, des schémas d'agressivité, des schémas d'énervement systématique. À tel moment particulier du week-end, le samedi soir, on est irrité. Et on se rend pas compte. Parfois, nos proches sont des relais extrêmement utiles, enfin, des gens qui ont la capacité de nous écouter, de nous regarder, de nous entendre, permet de dire, écoute, tu répètes quelque chose là, je ne sais pas ce que c'est, mais tu répètes quelque chose avec ton compagnon ou ta compagne, lui il est complètement désespéré parce qu'il ne sait pas quoi répondre à ça, parce que la plupart du temps, ça ne lui est pas adressé. On répète le schéma en ayant son compagnon ou sa compagne comme cible, alors que la vraie cible, c'est peut-être quelqu'un qui appartient au passé. C'était peut-être maman, c'était peut-être papa, ou c'était peut-être toute autre figure d'autorité qui a contribué à nous construire en tant qu'être humain. Mais au bout du compte, on répète le schéma, et c'est difficile, j'insiste, de le voir tout seul. Alors, raison de plus en thérapie, en psychothérapie, c'est vraiment un des enjeux de la psychothérapie, de se rendre compte des schémas répétitifs qu'on met en place, et qu'on est en train de coller ça sur le compagnon et la compagne, et que, évidemment, il ne peut pas y répondre, et qu'on n'a pas à lui en vouloir.
Christophe Auré, ensemble nous parlons du couple à partir de votre livre « Ensemble, mais seul, apprivoiser le sentiment de solitude dans le couple ». Alors justement, est-ce que c'est pas ça, entre guillemets, la solution? C'est apprivoiser le sentiment de solitude dans le couple aussi? C'est-à-dire que la personne qui se sent toujours insatisfaite parce qu'elle demande à l'autre, elle surinvestit dans la relation avec l'autre, faut-il pas que déjà il y a un retour vers son intériorité?
Il y a un retour vers l'intériorité. Là, on est clair, Bénédicte, il y a un risque. Il y a vraiment un risque. Il faut mettre le curseur. D'un côté du curseur, à l'extrême, c'est on est fusionnel, toi c'est moi, moi c'est toi. Non. De l'autre côté du curseur, c'est on est en coloc. C'est-à-dire que toi tu vis ta vie, moi je vis ma vie et on est simplement sous le même toit. Mettre le curseur entre les deux, c'est clairement difficile. Hein. Ça veut dire comment je peux, dans ce couple-là, à la fois répondre à mes besoins propres, spécifiques, mes rêves, mes aspirations et tout, et peut-être les accomplir ou les mettre en œuvre en dehors de la relation, mais en même temps, parce que là sinon ce serait que de la coloc, mais en même temps pouvoir être vigilant à l'impact de ce que je fais pour moi sur la relation. Parce que si j'investis beaucoup de choses extérieures, il se peut que je désinvestisse beaucoup de choses du couple. À l'inverse, si je surinvestis trop de choses dans le couple, je vais parfois être amené à désinvestir des choses qui me sont propres.
Tout est une question de justesse alors.
C'est une question de justesse. Mais ça, alors vraiment, clairement, on ne peut pas le faire si on ne se pose pas 5 minutes, enfin un peu plus que 5 minutes, pour dire, ok, dans cette relation, qu'est-ce que je donne à l'autre? Qu'est-ce que je me donne? Et si on fait un constat qu'on est sans cesse dans le don de l'autre en s'oubliant complètement, là on a déjà un petit indice de là où on va devoir travailler pour rétablir cet équilibre. Parce que c'est vraiment dans l'équilibre. Être vigilant de mes propres besoins, mes propres aspirations et œuvrer véritablement à y répondre. Et en même temps être conscient des rêves, aspirations, désirs du conjoint et d'œuvrer du mieux qu'on peut à le résoudre. Même si parfois, ce sont des besoins où on n'existera pas. C'est ça qui est difficile. C'est là où l'amour a besoin d'être présent. Et je peux parfois pousser l'autre dans l'accomplissement d'un désir ou d'une aspiration en sachant que je n'aurai pas place dans ce mouvement-là, mais je vais promouvoir, je vais aider l'autre. C'est une façon de décliner l'amour qu'on a pour l'autre, hein, d'aider l'autre à accomplir ses rêves, ses aspirations, ses objectifs de vie, mais surtout ne pas s'oublier dans le processus, parce que ce serait simplement promouvoir l'autre et s'oublier complètement. Par exemple, hein, y a des compagnes qui me disent j'ai tout le temps promu la carrière professionnelle de mon mari, je me suis totalement sacrifiée pour tout, et au bout du compte, après 10, 15, 20 ans, je me rends compte que j'ai rien fait pour moi. Là, c'est un bon exemple que un surinvestissement de la relation de couple, mais au profit du conjoint, et on se dit, avec parfois un peu de tristesse et d'amertume, parfois même de colère, de se dire, mais moi, dans tout ça, je me suis complètement oublié. Et ça peut arriver à des situations de divorce, d'ailleurs, hein, où la personne se dit, ok, ben maintenant, je vais vivre pour moi. Et je vais complètement couper cette relation pour vivre vraiment pour moi. Ce qui est parfois le cas. Parfois, ça se passe effectivement. Une fois que la relation a été coupée, que la personne découvre combien elle s'était négligée dans le couple et qu'elle découvre après le divorce qu'elle peut accomplir des choses qu'elle n'avait pas accomplies avant. Est-ce qu'on est obligé d'en arriver là? Je ne crois pas. Moi, je suis un petit peu naïf là-dedans. Je pense que la prise de conscience peut aider véritablement à se dire « Ok, notre relation n'est plus celle qu'elle était quand on s'est rencontré, qu'on avait 30 ans, maintenant qu'on en a 50, il y a eu 20 ans. En 20 ans, on bouge en tant qu'être humain. Les besoins, aspirations, rêves, objectifs de vie changent. Comment j'ai ajusté, comment on a essayé d'être assez intelligent pour ajuster nos besoins au fil du temps et surtout mes propres besoins et que peut-être je renonçais à des besoins au temps du début de la relation, à 20 ans, à 30 ans, peut-être à 50 ans, je n'ai plus envie. Et c'est pas du tout qu'on devient égoïste, c'est simplement qu'on se rend compte qu'il y a un équilibre, une harmonie, un alignement intérieur qui a besoin d'être respecté, parce que soyons clairs, hein, si on le respecte pas, il va y avoir des choses qui vont émerger, d'anxiété, d'impression de vide de sens, d'impression d'être déconnecté de soi, d'impression que sa vie n'a pas de sens. Donc vraiment, la réponse à ça, qui parfois accompagne le sentiment de solitude dans le couple, il est fait de cette perte de sens de son existence parce qu'on s'est perdu soi-même. C'est pas que l'autre nous a perdu, c'est qu'on a tellement investi dans le couple et dans par exemple, la carrière professionnelle du compagnon qu'on s'est oublié. Et avant de divorcer, peut-être que ce serait important de se dire « Ok, mais qu'est-ce que je dois faire pour moi ?» en mettant très très loin à distance l'idée que je deviens égoïste. Ce n'est pas du tout le cas. C'est je prends simplement conscience qu'il y a des territoires que je n'ai pas investis pendant tant d'années et qu'il est grand temps de les investir.
Mais comment faire ces réajustements? Ça peut passer quelquefois par des conflits, des disputes aussi?
Alors, ça peut passer partout. Alors vraiment, ça peut passer par des conflits. Les conflits sont parfois féconds. Aux États-Unis, il y a un endroit qui s'appelle le Love Lab, le laboratoire de l'amour. Et c'est des psychologues qui travaillent dans ce Love Lab et se sont rendus compte, curieusement, que les couples qui tenaient le mieux étaient les couples qui savaient le mieux gérer les conflits. Gérer les engueulades. Plus on est à mesure de gérer les engueulades, d'en tirer quelque chose, d'en tirer un enseignement, plus c'est un facteur prédictif de longévité du couple. C'est étonnant qu'on dise ça, parce qu'on pense que c'est plus la capacité à donner, à être généreux, à être la douceur et tout, qui va garantir la longévité du couple. Eh bien non, c'est la capacité à s'engueuler de façon constructive, qui est vraiment quelque chose de bénéfique. Donc ça peut passer effectivement par des engueulades. Après, ça peut passer, moi je serais plutôt sur le côté de se poser autour d'une table et de l'angoisse au ventre, parce que c'est hyper dur de mettre à plat parfois des enjeux de couple qui étaient très dans le non-dit, dans l'implicite et que jamais on mettait sous le tapis, de se dire « Ok, là on a un problème tous les deux. Si on continue comme ça, on va se séparer. Je le sais, je le sens qu'on va se séparer. Je ne veux pas arriver à là. Qu'est-ce qu'on peut encore aménager, sauver ou peut-être qu'est-ce qu'on peut ne plus sauver, plus aménager et comment on envisage la suite ?»
Est-ce que vous croyez vraiment que cette communication est possible?
Sincèrement, oui. Sinon, je ne vous en parlerai pas. Je l'ai vu. Hein. J'ai vu des couples qui étaient dans une difficulté de communication et qui ont pu la restaurer. Mais sincèrement, je pense qu'un tiers est utile. Un tiers, ça peut être un psy, ça peut être un thérapeute de couple, ça peut être un ami de la famille un peu sage qui a la capacité à ne pas entrer dans l'émotionnel de l'un et de l'autre. Mais je crois que c'est possible. Mais soyons honnêtes, c'est compliqué. Et beaucoup de gens n'y arrivent pas. Alors que sincèrement, je pense qu'il y a toujours le potentiel de ça. Au bout du compte, on a envie d'être heureux. On a envie que la relation marche. Parfois, on fait le constat que ça ne marche pas, qu'on fait plein d'efforts. Mais au cœur du cœur, quand on regarde les personnes, il y a toujours un écho de tristesse de se dire « on a essayé, mais on n'a pas réussi ». Donc, moi, je veux vraiment être naïvement confiant sur le fait que si on arrive, et le mot « si » est important, si on arrive à poser ce dialogue, on crée au moins les conditions favorables pour que quelque chose avance. Une fois ce dialogue a été posé, on se rend compte que ça ne marchera pas, bon ben, il faut acter ceci et passer à une autre étape de notre vie.
Parce que là, il faut que les deux soient d'accord, pour qu'il y ait certains compromis, je ne sais pas si c'est le terme est exact.
Exactement, mais... et c'est ça tout l'enjeu. Hein. Autant on peut se changer soi, autant il est totalement illusoire, et j'insiste lourdement, totalement illusoire de vouloir changer l'autre si il ou elle ne veut pas ou n'est pas prêt. C'est vraiment, et c'est pas qu'il fait preuve de mauvais caractère ni rien, c'est que la plupart du temps, c'est l'autre n'a pas la capacité à changer ou ne voit pas le sens de changer ou n'est pas assez en souffrance pour changer. Parce que vous savez bien, Bénédicte, que c'est la souffrance qui est souvent l'agent du changement. Si la personne dans le couple ne ressent pas en souffrance et que l'un seulement des membres du couple est en souffrance, eh bien, cette personne en souffrance va essayer de faire avancer les choses et l'autre peut parfois faire résistance, consciente ou pas, parce que lui, il ne ressent pas la souffrance qui est le moteur du changement chez l'autre personne.
Merci beaucoup Christophe Fauré. Nous nous retrouvons la fois prochaine pour voir comment réenchanter le couple.